Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de passer ces instants avec vous.
Dans Espérance aujourd'hui, des sujets touchant au quotidien sont abordés à la lumière de la Bible.
Car nous sommes convaincus que Jésus représente une espérance dans ce monde malheureux.
Aujourd'hui, nous allons entamer une série de discussions sur le thème de la violence.
Et nous conclurons par une courte méditation biblique qui commence avec un orteil meurtri.
La violence est aujourd'hui un problème qui touche beaucoup. Que ce soit les guerres civiles, la menace du terrorisme, la sécurité ou la délinquance, elle cache d'innombrables vies. D'ailleurs, qui peut dire qu'il n'a jamais eu de gestes violents ou prononcé de paroles méchantes envers son prochain ? Je suis heureux d'accueillir André sur le plateau. Ensemble, nous aborderons ce thème sous tous ses aspects. Bonjour André.
Merci et bonjour à tous.
André, vous vous intéressez vivement au besoin d'apporter des réponses bibliques à tous les problèmes de la vie.
C'est exact. Dieu n'est pas distant, il s'intéresse à chaque détail de notre vie et il nous parle à travers la Bible de tout, y compris de la violence, un mal qui pèse lourdement sur ce monde.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, selon la Bible, d'où vient la violence ?
Le tout premier acte de violence qui a marqué l'histoire de l'humanité est relaté au début de la Bible, au chapitre 4 du livre appelé Genèse. Là, nous rencontrons deux frères, Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, mais malheureusement un jour, Caïn tue son frère.
Et pourquoi ?
Le motif de son acte semble être la jalousie, car Abel avait obtenu la faveur de Dieu et non Caïn. D'ailleurs, Abel ne lui avait rien fait de mal.
Et même si Abel l'avait offensé, ce n'est pas par la violence qu'il faut régler ses problèmes.
Tout à fait. Lorsqu'on rend le mal pour le mal, il s'agit là de la vengeance. Un acte qui engendre souvent un cercle vicieux de violence qui peut durer des générations.
Donc la jalousie et le désir de vengeance peuvent nous pousser à la violence. D'autres motifs sont la haine et la colère.
C'est juste, ce qui montre que la violence naît dans les sentiments et les pensées. En fait, Jésus a enseigné que les pensées violentes sont tout aussi condamnables que les gestes. Il sait que si nous ne maîtrisons pas nos mauvais sentiments, nous finirons par les exprimer par un acte d'agression.
Mais pour revenir à l'histoire de Caïn, quelle en est la suite ? Comment Dieu a-t-il réagi après ce premier meurtre ?
Dieu vient rencontrer Caïn qui ne semble pas comprendre la gravité de ce qu'il a fait. Et Dieu se trouve dans l'obligation de le châtier. Il l'envoie errer dans les lieux déserts. Cela montre que Dieu n'approuve absolument pas la violence, surtout quand elle vise à toucher ou à détruire une personne sans aucune raison valable. Et si Dieu envoie Caïn errer dans le désert, j'y vois là une image.
Laquelle ?
Je pense que Dieu l'envoie loin de sa présence. On constate que jusqu'alors, Caïn et Dieu se connaissaient. Mais le fait que Caïn soit envoyé dans le désert montre qu'il y a dorénavant une rupture de relation. On peut dire que Dieu ne supporte pas les personnes violentes en sa présence, l'amitié en est brisée.
Mais si la violence de Caïn ne visait pas Dieu, comment se fait-il que Dieu prenne les choses si mal ?
Imaginez un instant que je sois un potier. J'ai façonné un beau vase et j'ai pris soin de bien le décorer. Et puis, un jour, vous arrivez, saisissez mon vase et le jetez violemment par terre. Le vase éclate en 1000 morceaux, il est impossible de le recoller. Vous comprendrez sans doute qu'en tant que potier, je devienne profondément blessé et offensé. Il ne faut pas s'étonner si l'amitié qui nous a liés jusqu'alors en est fragilisée.
Et que signifie cette image ?
Dieu est notre créateur. Il nous a façonnés. Donc un acte de violence représente non seulement une attaque contre une personne, mais aussi une attaque contre lui. La violence vise non seulement les relations humaines, mais aussi la relation entre l'homme et Dieu. Dieu ne peut pas être indifférent, et même si les violents peuvent parfois échapper à la justice humaine, ils n'échapperont pas à la justice divine.
Bon, il est vrai que la violence fait naître le malheur et nous éloigne de Dieu. Et elle suscite sa condamnation. Comment se fait-il alors que le monde demeure si violent ?
La Bible donne la réponse suivante. La violence est l'une des expressions de la nature pécheresse de l'homme.
Et que voulez-vous dire par nature pécheresse ?
Dieu a créé l'homme bon, avec cependant la possibilité de choisir le mal. Un jour, Adam et Ève ont effectivement choisi de désobéir à Dieu. De ce jour, tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire l'humanité entière, ont hérité cette tendance à pécher. Autrement dit, tous font ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est comme un cercle vicieux auquel on ne peut échapper. Si on vit dans un monde mauvais, il est facile de l'imiter. On n'a pas forcément d'autres exemples. Si nous grandissons dans un climat de violence, nous apprenons rapidement à faire de même. D'autant plus que cela correspond à notre nature qui cède si facilement au mal.
Cela évoque pour moi ces arbres qui poussent de travers. Ils sont penchés d'un côté, car ils sont exposés à un vent fort qui souffle surtout dans la même direction.
Oui, c'est une belle image et c'est pareil pour nous. On n'est pas droit, on pousse de façon penchée, subissant la pression des mauvais vents, la pression des mauvaises influences de ce monde.
Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi la violence se répand si facilement. Mais enfin, existe-t-il un espoir dans un tel monde? Pour reprendre l'image que j'ai citée, est-il possible de redresser l'arbre?
Fort heureusement, oui. Jésus nous offre une issue de secours. Il nous appelle à renoncer à la violence sous toutes ses formes et cet appel à changer de vie s'accompagne de 3 promesses pour ceux et celles qui l'acceptent.
3 promesses? Quelles sont-elles?
La promesse du pardon. Dieu ne tiendra plus compte de nos actes violents passés. Le jugement qui pèse sur nous est supprimé. Ensuite, la promesse du don de l'Esprit. Il s'agit de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, une aide indispensable pour réellement changer. Et enfin, la promesse de la vie éternelle, une vie où toute la violence de ce monde aura disparu. Nous en parlerons davantage une autre fois, je pense.
Bien sûr, nous poursuivrons notre discussion prochainement. Mais auparavant, voulez-vous ajouter quelque chose?
Oui, c'est important de le souligner. Les hommes et les femmes ont beaucoup de mal à se maîtriser. Les gouvernements ne parviennent pas à chasser la violence de la société. Dans cette situation apparemment sans issue, Dieu offre un espoir. Il ne faut pas sous-estimer sa puissance. Il peut changer nos vies et il accomplira toutes ses promesses.
Jésus a été trahi par un proche. Livré entre les mains d'un état violent, torturé par des soldats et emmené pour mourir sur une croix.
Jésus, tout comme nous, a vécu dans une société violente. Il a subi ses méfaits, il a ressenti les effets de la violence dans son corps et dans son âme. Mais comment a-t-il réagi au moment où la violence s'est acharnée sur lui? Et que devons-nous apprendre de son enseignement sur la violence?
Voilà quelques-unes des questions que je poserai à André lors de notre prochaine émission.
Mais maintenant, pour introduire notre méditation biblique, nous allons lire quelques paroles tirées de l'Évangile de Jean, chapitre 8 et verset 12.
Jésus le parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Je garde un souvenir malheureux d'un séjour scolaire effectué quand je devais avoir 17 ans. L'incident s'est produit une nuit, vers 2 heures du matin. Le dortoir était enveloppé d'une obscurité totale. Seuls les ronflements de quelques dormeurs interrompaient le silence. J'avais besoin de me lever, et je me suis dirigé vers la sortie sans allumer la lampe, soucieux de ne pas déranger le sommeil de mes copains. J'ai regretté cette décision, car ma marche à tâtons a tout d'un coup été interrompue par un élancement dans la jambe. Mon pied venait de heurter un meuble en bois massif et un orteil me faisait terriblement mal. À cause de mon pied enflé, j'ai passé le reste du séjour à boiter péniblement au lieu de gambader avec mes copains. Évidemment, pour éviter cette mésaventure, j'aurais dû allumer la lumière sans penser aux autres. Cet incident nous rappelle que, pour accomplir le moindre geste, nous avons besoin de lumière. Sans elle, les risques d'accident se multiplient. La lumière est essentielle pour la vie. Ses sources sont nombreuses. Le soleil et le jour, la lune et les étoiles la nuit, l'électricité pour ceux qui peuvent en bénéficier, les bougies et les lampes à huile pour d'autres. Et puis, nous lisons dans la Bible ces paroles étonnantes de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Que voulait-il dire par cela? La lumière est une image biblique riche de sens. Mais au fond, il s'agit d'un simple rappel. Nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour nous montrer où aller dans la vie et comment. Bien sûr, j'aborde maintenant les grandes questions de la vie. Qui sommes-nous? Pourquoi existons? Qui est Dieu? Comment le trouver, le rencontrer? Y a-t-il une vie après la mort? Comment y accéder? Pour toutes ces questions, nous avons besoin d'être éclaircis par une lumière qui vient d'ailleurs. Les réponses à ces questions fondamentales sont hors de portée, au-delà de notre expérience et notre intelligence. Laissés à nous-mêmes, nous tâtonnons dans l'obscurité. Perdus, nous nous trompons de route. Mais Dieu ne nous abandonne pas à notre errance. Dans son grand amour, il fait briller une lumière et il apporte les réponses à nos questions. Jésus est cette lumière, envoyée par Dieu pour illuminer le chemin qui conduit à lui. L'évangile de Jean dit encore « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, c'est-à-dire Jésus, est celui qui l'a fait connaître. » Si vous voulez connaître Dieu, c'est en Jésus que vous trouverez les réponses à vos questions. Mais attention, ceux qui refusent cette lumière non seulement se privent de quelque chose de merveilleux, mais ils courent à la catastrophe, bien pire que celle de mon orteil meurtri.
La violence fait partie de ce que la Bible appelle les ténèbres. Elle n'apporte que douleur, souffrance et division.
La lumière qui est Jésus est venue pour chasser les ténèbres. Elle illumine le chemin qui mène à Dieu.
La violence ou la lumière? À vous de faire le choix.
En espérant vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et à la prochaine.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.